Il aura été difficile d'échapper cette semaine au psychodrame qui se jouait tant en Italie qu'en Grèce. Deux pays dans la tourmente économique et financière, mais à distinguer cependant. Menacée par la crise de la dette, l'Italie, troisième économie de la zone euro, est mal en point certes, mais encore loin de connaître le sort de la Grèce. C'est ce que nous aidait à comprendre Céline Antonin, économiste à l'Observatoire français des conjectures économiques.
Les deux crises qu'on voit actuellement, ce sont des crises d'endettement public, donc ça c'est un point commun. Cela étant, il faut quand même les différencier, et ce pour plusieurs raisons. Donc dans le cas de la Grèce, c'est un pays qui a des fondamentaux économiques beaucoup moins solides qu'en Italie, c'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup perdu en compétitivité, qui a également connaît des problèmes structurels importants, des problèmes d'évasion fiscale, des problèmes d'économie souterraine. L'Italie connaît également ces problèmes, mais dans une mesure beaucoup plus infime, c'est-à-dire qu'elle a quand même un tissu exportateur beaucoup plus puissant. Elle a une consommation qui se tient beaucoup mieux. L'Italie, en fait, est dans une situation donc de croissance assez atone, mais c'est une situation qui est quand même plus conjoncturelle que structurelle.
Des mois que la répression s'abat sur l'opposition, implacable. En Syrie, exécution sommaire et cas de torture. Dans un rapport publié ce vendredi, Human Rights Watch accusait le régime syrien de crimes contre l'humanité. Nous avons joint Ouri Nadim, directeur du bureau de l'ONG à Beyrouth.
Les informations qu'on a collectées indiquent qu'il y a eu une politique de détention arbitraire qui est couplée avec une grande pratique de torture qui, dans de nombreux cas, ont tué les détenus. Donc cette nature systématique des violations, c'est ce qui nous a mené à dire qu'il y a probablement eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis en Syrie. Donc on a un appel à la Ligue arabe de suspendre la Syrie de la Ligue jusqu'à ce que ces violations cessent. Et deuxièmement, un appel à la communauté internationale, et particulièrement au Conseil de sécurité, de revisiter la question de la Syrie, notamment avec l'objectif de, un, imposer un embargo sur les armes qui sont en train d'être utilisées aujourd'hui contre les civils, et de, deux, imposer des sanctions contre les individus responsables de cette répression au niveau du Conseil de sécurité.
L'Iran et son nucléaire continuent d'inquiéter. Face à la possibilité de l'arme atomique, de plus en plus de pays réclament des sanctions dures contre Téhéran. Mais avec quels effets ? Mohamed Reza Djalili, professeur à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, nous éclairait.
Il ne faut pas simplement regarder les sanctions en pensant que, bien sûr, ça a des effets négatifs pour la population. Ça a aussi des effets négatifs pour le pouvoir. Mais en même temps, les sanctions, c'est quand même mieux que la guerre, dont l'issue ne sera que extrêmement grave, par définition.
En Afrique, le Nigeria continue, lui, de se débattre avec la secte islamiste Boko Haram. Des dizaines de morts encore cette semaine. Comment en est-on arrivé là ? Pour Marc-Antoine Pérouse de Monclos, spécialiste du pays, c'est l'attitude de l'armée nigériane qui peut expliquer cette violence.
Il y a d'abord le fait quand même que l'État nigérian est relativement faible, il est autoritaire mais faible, et qu'il gère assez mal ses forces de sécurité. Nous, on a calculé que dans plus de la moitié des cas où il y a déjà eu des violences mortelles, par exemple dans des conflits communautaires, quand vous envoyez la police ou l'armée au Nigeria, dans plus de 50% des cas, l'armée tire et tue. Ce qui crée autant de martyrs, et aujourd'hui d'ailleurs un certain capital de sympathie pour Boko Haram, suite à la répression terrible des violences de Maïdougouri en 2009, quand l'armée avait tiré de façon indiscriminée dans beaucoup de quartiers. Alors là, il y a aussi un point important à noter, c'est que si le mouvement Boko Haram s'est autant radicalisé, et a même versé dans la violence terroriste, c'est aussi beaucoup dû, quoi qu'il en soit par ailleurs, de ses connexions internationales avec la mouvance djihadiste du type Shabab ou Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais c'est aussi beaucoup dû à la répression des forces armées.
Tension également en RDC en vue des élections du 28 novembre. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Monsengwo, a condamné ces violences préélectorales et demandé à la population de faire preuve de sagesse et de prudence. Il nous en parlait vendredi.
On en est arrivé à quelques violences. Par exemple, que les gens se sont battus. L'atmosphère à Kinshasa est une atmosphère de nervosité, une atmosphère de peur. Les gens ne savent pas trop ce qui pourrait arriver et ils sont inquiets. J'ai appelé les gens à faire preuve de retenue en leur disant que les élections ne sont pas une fin en soi, La finalité, c'est la mise en place d'institutions qui doivent gouverner le pays et s'occuper du bien du peuple et s'occuper de mettre en place un état de droit.
Et que dire du Tibet où depuis le mois de mars, 12 religieux tibétains se sont immolés ou ont tenté de le faire. Les Tibétains dénoncent depuis des années maintenant les dures répressions dont ils sont victimes. Mais ces derniers mois, leurs actions ont pris une tournure de plus en plus dramatique. Marie Holzmann, sinologue, nous explique pourquoi.
Le fait que le Dalai Lama a pris sa retraite, ça a provoqué au sein de la communauté tibétaine une espèce de dépression généralisée. Mais l'élément fondamental dans la région du Sichuan et notamment au monastère de Kirti, c'est plutôt la violence du gouvernement chinois. Les moines qui sont assiégés, ils sont obligés à de la rééducation politique tous les jours, qui ne peuvent plus faire un geste, un mouvement ou même une cérémonie sans être sous l'œil de gens qui portent des armes quand même. Évidemment que la tension et le désespoir sont devenus insoutenables.